Le 26 avril marque le très triste anniversaire de Tchernobyl. Parallèlement, on a appris que le président de la communauté de communes des Deux-Rives, Jean-Michel Baillet, serait favorable à l'implantation de deux réacteurs de type EPR2 sur le site de la centrale nucléaire de Golfech. Voilà deux bonnes raisons de se réunir et manifester son opposition à l'usage du nucléaire. Faisons le point sur ces informations en compagnie de Philippe Cruzel de la coordination Stop Golfech. Je suis en compagnie de Philippe Cruzel du réseau citoyen de surveillance radioactivité Golfech et également tu fais partie de la coordination Stop Golfech. Bonjour Philippe.
Salut William, merci de me recevoir une nouvelle fois.
Alors on se voit aujourd'hui parce que j'ai reçu, comme d'habitude, un peu tu es notre vigie ici sur cette antenne, sur toute cette actualité nucléaire. Et parmi les différents mails que tu m'as envoyés, il y en a un qui m'a quelque peu inquiété, c'est-à-dire un mail qui revient sur l'envie du président de la communauté de communes des Deux-Rives, Jean-Michel Baillet, une envie qu'il a pour implanter deux réacteurs EPR sur Golfech. Alors, je veux bien qu'on revienne sur toute cette histoire et peut-être juste avant, on peut commencer par faire un bilan sur le nucléaire, là où on en est aujourd'hui en France.
À l'heure actuelle, on le sait que Emmanuel Macron, c'était en 2022. Il était au Creusot et il a émis la forte volonté politique de développer, de relancer le nucléaire, qui était la seule énergie, je dirais, qui pouvait faire face au changement climatique. D'ailleurs, la communication d'Électricité de France là-dessus est très, très forte, puisque si vous regardez passer des voitures, il y a EDF. Il y a marqué EDF, alors la phrase n'est pas forcément exacte, mais le sens c'est « nous agissons pour le climat ». Donc ça c'est clair, le nucléaire ça va réduire le changement climatique, et donc à partir de là, il veut lancer 6 réacteurs EPR, EPR2, le EPR1 c'est celui de Flamanville, qui a une bonne douzaine d'années de retard et dont le prix a été multiplié par 3, voire 4. Et donc, ces EPR2, ça sera des EPR qui coûteraient moins cher parce qu'il y aura moins de sécurité. L'EPR1 de Flamanville, il a une grosse enceinte contre une fonte du cœur, comme ça s'est passé à Fukushima, Et donc, ce qui ne sera pas le cas des EPR2, vous allez sur un site qui s'appelle Global Chance, et vous tapez EPR, et vous verrez un article de Bernard Laponche, qui est un physicien qui a travaillé dans sa jeunesse au commissariat à l'énergie atomique, et puis qui a vu ce qu'était le nucléaire et la radioactivité, puis qui est parti faire autre chose. Et il dit bien que c'est vraiment se payer la tête des gens lorsqu'on parle de sécurité pour les EPR 2. Et ça va coûter, alors ils disent, on en aura pour 55 milliards, mais on a bien vu que déjà, en refaisant les calculs, il y avait 30% en plus. Tout de suite, là, je dirais... Il y a quelques commentaires qui sont faits. Alors, il y a eu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a dit il va falloir travailler sur un planning pour que ça aille plus vite et pour que ça coûte moins cher. Mais c'est du discours parce qu'effectivement, on a perdu du savoir-faire. On le voit avec le PR1 de Flamanville. On le voit avec Hinkley Point, les réacteurs en construction en Grande-Bretagne où ça a pris du retard. Et où ça va coûter plus cher, parce que c'est des structures extrêmement complexes. Il faut pas se leurrer. Et n'oublions pas que pour la construction d'Hinkley Point, le directeur financier d'EDF de l'époque a démissionné. Et il a démissionné parce qu'il pensait que économiquement, c'était dangereux pour EDF. Donc il n'y avait pas d'autre raison de son départ, parce que c'est un poste en or quand même, c'est pas. C'est quand même intéressant, même s'il était dans une grande banque ou dans une grande boîte capitaliste, il toucherait bien plus, mais là, c'était quand même un bon job. Donc il est parti, c'est pas pour rien. Et donc il y a tout ça, on veut rajouter des constructions de PR2, on n'a pas forcément le pognon. J'oublie quand même, il ne faut pas oublier Bure. Bure, on nous dit le coût de Bure, c'est 25 milliards. Il faut savoir que Bure, lorsqu'on va décider de la construction de Bure et de la mise en place de déchets hautement radioactifs à vie longue, ça prend un siècle.
Pour construire ?
Pour construire et installer. Voilà. Alors, la construction, ça sera beaucoup, beaucoup plus court, mais l'installation, ça sera quand même... C'est prévu sur un siècle. Qu'est-ce que... Vous imaginez ce qui peut se passer en un siècle. Et quand on nous dit 25 milliards, quand on voit que tous les budgets sont dépassés dans le nucléaire, c'est le minimum. Hein. Donc là, on parle en termes de fric pour développer le nucléaire, ça dépasse largement la centaine de milliards. Donc, condition que tout fonctionne, tout soit bien planifié, tout fonctionne, ce qui n'est manifestement pas le cas. On a vu les problèmes de corrosion qui ne sont pas tout à fait réglés, où on voit toujours qu'il y a des arrêts de centrales parce qu'il y a, par exemple, j'ai envoyé l'info, c'était au Blayé. Au Blayé, il y a un amas de végétaux qui s'est foutu sur les filtres, sur le pompage de l'eau de la centrale. Ils ont été obligés de réduire la production, etc. À cause de ça, mais c'est pas la première fois que ça se passe. Il y a une autre à Panly, il y avait eu énormément de de méduses. Il y avait pas des méduses, elles s'étaient collées. Il y a tout un tas de trucs qui viennent. Bon, alors ça, ils disent ah ben ça on l'avait pas prévu. Ben ouais, mais ça, ils devraient le prévoir. Hein.
Qu'on parle quand même de construction. Si jamais il y a un accident, bon, c'est pas un accident moindre.
Voilà. Il y a de la radioactivité. On voit quand même. Les dégâts de Tchernobyl, le 4, 5 et 6 avril, on a fait venir Yves Lenoir, le président des enfants de Tchernobyl Bélarusse, qui a réalisé un film avec Marc Petitjean, qui s'appelle Tchernobyl, le monde d'après, et le monde après l'accident, et qui montre toute la problématique sur le plan de la santé, de la radioactivité, ou encore ils mangent de l'alimentation qui est polluée par la radioactivité. Et bon, il y a maintenant 38 ans, donc il y a un peu moins d'effets, mais durant les 10 premières années, il y en a encore des effets, parce qu'en fait, le film était fait en 2018, et il y a une pédiatre là qui disait ce qu'elle avait à dire. Il naît encore des enfants. En fait, les mères, lorsqu'elles sont enceintes, leurs 3 premiers mois, elles mangent des produits radioactifs. Et c'est un effet sur les fœtus, sur le développement. Alors, il peut y avoir des fausses couches. Il peut y avoir des enfants anormaux. Il y a tout un tas de pathologies dont on parle très peu. Mais il y a beaucoup de fausses couches liées. Il y a beaucoup de fausses couches liées à ça. Lorsqu'il y a eu des photos, on voyait le crâne d'un bébé qui était complètement difforme, qui n'était pas viable. Hein. Mais bon, ça, c'est une réalité. Si on prend Fukushima, Yves Lenoir est allé à Fukushima, il y a des endroits où il y a des niveaux de radioactivité qui sont quand même très, très élevés. Surtout qu'en fait, ils ont concentré la radioactivité. Ils ont raclé les sols, ils les ont mis dans des big bags. Est-ce qu'ils vont tenir? Combien de temps ils vont tenir ces big bags? Hein? Mais de toute façon, ce qui se passe, les forêts, ils ne peuvent pas racler les sols. Donc, il y a un lessivage au fur et à mesure. Et la radioactivité, à nouveau, se retrouve dans des zones qu'ils ont nettoyées, entre guillemets. Je crois que pour l'instant, ça leur a coûté au moins 200 milliards de dollars. Là, c'est au ras des pâquerettes. Et il y a plein quand même... Il y a des jeunes qui ont des cancers de la thyroïde là-bas. Bon, on dit c'est pas vrai, c'est bon, vous racontez. Si, il y a des chiffres clairs faits par des médecins japonais. Le Japon... c'est pas un pays sous-développé, sauf qu'on dit à ces chercheurs, on leur dit bouclé là.
Moi, je voudrais revenir un instant sur une notion. Au début de ton explicatif, tu disais voilà, dans les messages du gouvernement pour asseoir comme ça leur envie du développement du nucléaire, c'est pour faire face à ce qu'on appelle le changement climatique. Et je voudrais parler de la ressource en eau et revenir donc sur le cas de Golfech, hein, sur le cas de cette centrale avec la Garonne donc, qui est là, dans laquelle on ponctionne l'eau pour refroidir le réacteur. Mais on est déjà à flux tendu dans la gestion de l'eau sur cette centrale de Golfech avec déjà juste deux réacteurs. Quand ben on oui. est en pleine période estivale.
Ben, oui, oui. C'est... L'an dernier, c'était limite. En 2022, ils ont arrêté, je crois, des réacteurs parce que la température de l'eau a atteint 28 degrés et qu'on ne peut pas la dépasser. Hein. C'est à partir de 28 degrés, on est obligé d'intervenir pour pas qu'on fasse augmenter encore la température de l'eau. Et puis, il y a l'étiage qui est très bas, c'est-à-dire le débit de l'eau à Garonne est très bas. À titre d'exemple, bon, Toulouse, en débit normal, c'est 500 mètres cubes secondes à Toulouse, je dirais, entre le pont Neuf et le pont des Catalans. Mmh. Et l'été, c'est 5 mètres cubes secondes. Alors, entre Toulouse et Golfech, il y a effectivement le Tarn et l'Aveyron qui sont là. Et donc, effectivement, ils amènent de l'eau supplémentaire. Mais je crois qu'en 2022, il y avait moins de 10 mètres cubes secondes.
C'était le moment où il y avait une dérogation, d'ailleurs, par rapport au rejet de température élevée dans l'eau.
Ils ont, voilà. Et l'autre point, 10 mètres cubes secondes, ils ont besoin d'au moins 7 mètres cubes. Donc, avec deux réacteurs, donc avec quatre réacteurs, ça passe pas. J'ai un ami qui est un ancien de la centrale d'EDF qui a bossé là, qui dit 4 réacteurs, c'est impossible. Il n'y a pas assez d'eau, c'est sûr. Donc, c'est un coup de pub, c'est un coup de, je dirais, le Jean-Michel Baillet veut se faire un peu mousser. Voilà. Et c'est quand même quelqu'un qui était venu avec sa mère, c'était en fin des années 70 dans la lutte contre la centrale. Ils sont venus déchirer les registres d'enquête. Hein. Sa mère, sur lui, j'ai peut-être un petit doute, mais enfin, quand même. La famille Baillet, effectivement, était contre la centrale. Après, bon, il semblerait qu'ils avaient des terrains qui étaient sur le territoire où elle était construite. Bon, ils ont pas dû les donner, quand même. Hein. voilà. Donc, là-dessus... oui, c'est un coup de, à mon avis, c'est un coup de com' parce que sinon, c'est une superbe connerie de sa part. Alors, il semblerait que ça ait été voté à l'unanimité par les membres de la Comcom. Je dirais que il y a des moyens de faire voter à l'unanimité. La Comcom à l'heure actuelle, ce sont quand même les Comcom qui ont le plus de sous et qui financent des projets municipaux. Donc, si tu veux faire voter les... tu leur dis, si tu votes mal, eh ben, tu pourras te brosser pour certains projets que tu as.
Oui, c'est là où c'est le problème, on va dire, d'une entreprise privée qui finance, qui subventionne, qui donne et qui finance hein, une commune ou une communauté de communes, ce qui finalement enlève un petit peu de principe démocratique.
EDF, ce n'est plus une entreprise privée, c'est une entreprise totalement d'État à 100% maintenant. Hein. Mais moi, je parle qu'une communauté, la communauté des communes des deux rives, comme le Grand Cahors, etc., eh bien, ils ont des sous. Et si la commune, par exemple, X, je ne vais pas nommer là-bas, mais ou Y de la communauté de communes, on leur a bien fait comprendre, à mon avis, hein, s'il y a unanimité, quasi-unanimité, ceux qui ont voté, ils ont peut-être subi des pressions. Hein, voilà, la pression étant de dire, si tu as des projets, si tu veux des sous dans l'avenir, ben, il faut bien voter. Hein, ça se fait sur d'autres, pas forcément que sur le nucléaire, dans certains cas. Hein. Mais bon, je connais d'autres histoires sur un autre sujet, sur des com-com du Lot. Hein. Donc, je pense que là, ça peut se jouer. Donc nous, le 28 avril, c'est la coordination Stop Golfech, toutes les structures qui en sont membres, la coordination antinucléaire sud-ouest aussi, dont est membre la coordination Stop Golfech. Nous appelons à venir d'abord dans un premier point. À 10h, on a rendez-vous devant l'église de Valence d'Agen. Il y a la halle couverte, là. Et puis, on part distribuer des tracts d'information dans les communes sur lesquelles on n'a pas encore distribué, autour de Valence et de Golfech. Après, on a à midi et demi, on a pique-nique et prise de parole devant la centrale. Et puis à 15h, on a la conférence de Stéphane Kerkhoff, qui est le directeur général d'Agir pour l'environnement. 15h à la salle des fêtes de Saint-Pierre de Clairac. Mmh. Voilà, on l'a fait là parce que ce jour-là, cet après-midi-là, toutes les salles des fêtes du coin étaient absolument pas libres. Donc on a heureusement la persévérance et la ténacité de Coppel, Jean-Louis en l'occurrence, et Catherine ont fait qu'on a pu trouver cette salle des fêtes. Donc Stéphane, voilà, il a écrit. Alors la thématique, c'est nucléaire, on arrête tout, on réfléchit, et puis on propose autre chose. Il a écrit un bouquin là-dessus, donc voilà, on a fait une invitation aux élus du coin. On verra s'ils viennent. Bon, après, je suis un peu sceptique parce qu'on les a invités. Mais bon, j'espère me tromper. Et le nucléaire, c'est pas anecdotique. Et moi, j'ai un certain âge. Du temps de ma jeunesse, on disait inactif aujourd'hui, radioactif demain. Voilà. Et c'est toujours d'actualité parce que j'ai des bons copains qui disent, bon, c'est sûr, quand on entend les médias sur le nucléaire, quand on voit tout ça, etc., on peut être un peu découragé. Mais bon, si nous, on n'y est pas, voilà. C'est, voilà, donc, un peu, il va falloir, le 28 avril, il faut bouger et il faut être, si vous n'êtes pas à la distribution de tracts, vous n'êtes pas à la centrale, vous pouvez être à 13h, vous pouvez venir pique-niquer. Et puis après, on part à Saint-Pierre-de-Clairac. Voilà pour la conf de Stéphane Kerkhoff. Voilà ce qui... C'est... Mais bon, ce n'est pas perdu parce qu'il y a des... je dirais, il y a quand même le gros problème du nucléaire. C'est effectivement qu'il y a une perte de compétences. Alors... ils sont quand même forts, les points nucléaires. Ils accusent les écologistes d'avoir fait perdre la compétence parce qu'il aurait fallu construire des réacteurs quasiment tous les 5-6 ans pour qu'il y ait toujours des gens. Effectivement, quand on fait des choses, on garde les compétences. Mmh. Bon, sauf que ça a un coût. Hein. Et donc, ils nous accusent, ils disent... Super Phénix, c'est un scandale parce que on peut pas voilà. Le surgénérateur Super Phénix, vous savez, c'était 5 tonnes de plutonium et 5000 tonnes de sodium liquide. Ils ont mis il est pas encore fini d'être démantelé, il était arrêté en 97 ou 90. C'est sous Jospin que ça a été arrêté, 98 je crois. Et donc on a mis des décennies, il n'est pas encore fini. Ils ont mis 23, on va dire, et 26 ans. Ils ont mis, je crois, au moins 10 ans à sortir les 5000 tonnes de sodium liquide. Hein. Et tout n'est pas... Parce que le plutonium, en plus qu'il y avait dedans, c'est pas rien. Hein. Mmh. 1 mg de plutonium qu'on ingère, c'est un cancer. Mmh. Donc tu fais le 5 tonnes, tu vois, ça fait
beaucoup de cancer.
5 000 kilos, hein, 5 millions de grammes, 5 milliards de milligrammes, et bien effectivement, ça peut faire quand même beaucoup de cancer. Ça. Et puis bon, on a quand même la problématique du démantèlement quand on voit Brennilis. Brennilis, ça a été arrêté en 68 ou 69. Ça fait 50 ans, on n'a pas encore atteint le cœur. Et, oui. Et c'est un tout petit réacteur. Et oui. C'est un tout petit perdu dans les mondes d'arrêt. Là. C'est un tout petit réacteur. Alors les méga trucs, là, est-ce qu'on a provisionné le démantèlement de tous les réacteurs? Ça, j'en doute. Hein. Voilà. Donc c'est. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben les 100 milliards qu'on a là, et ben. Il faut en utiliser pour sécuriser les installations, lag, etc. Et puis, gérer quand même un peu les déchets. Alors, pas Bure. Hein. Parce que Bure, c'est le choix. Enfouissement des déchets en profondeur, c'est le choix d'une technologie liée au retraitement. Mmh. Si tu ne retraites pas les barres d'uranium qui sortent des centrales, hein, puisque qu'est-ce qui se passe? Quand on est moins efficiente, on les sort, On les fout en piscine, on les laisse au moins 5-6 ans. Et après, pour qu'elles perdent leur, réduisent de leur, chaleur, hein, on les fout dans des containers spéciaux et ça part à la hague. Et après, on retraite. Le retraitement, ça signifie qu'on essaie de récupérer du plutonium, tout un tas d'éléments radioactifs, mais des, trucs aussi extrêmement toxiques, extrêmement irradiants. Voilà. Parce qu'en plus, on les récupère, on les concentre. Il y a quasiment que nous qui faisons ça. Alors pourquoi ? Parce qu'on en a besoin pour l'armement nucléaire. Hein. Et, mais parce que Orano, qu'est-ce qu'il fait aux États-Unis ? Et chose qui a été celui qui a donné l'information, c'est Bernard Laponche. Orano aux États-Unis, il stocke les déchets en subsurface. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 500 mètres de profondeur, ça doit être à une dizaine de mètres. Hein. Et en fait, les barres d'uranium, on les met dans des petits chapiteaux. Elles sont sur rail. Si jamais il y en a une qui fuit, on la sort, on répare, on remet. Et puis, roule ma poule, si, si j'ose dire. Et c'est beaucoup plus facile à gérer. Et puis là-dedans, si tu veux, ces éléments radioactifs très toxiques, ils sont noyés dans tout le reste. Hein. Ils sont pas, ils vont pas partir. Voilà, voilà. C'est parce qu'il y a des trucs, là. Premièrement, la demi-vie, c'est des... Le thorium, par exemple, sa demi-vie, c'est 14 milliards d'années. La planète, elle a 4 milliards et demi d'années. Et le Big Bang, on dit 12... Oh, c'est presque au niveau du Big Bang. T'imagines un peu le dans quel rapport au temps on est. Et ça ne perd que la moitié de sa radioactivité. Si tu considères qu'il faut une dizaine de périodes, ça fait 140 milliards d'années. Et en plus, c'est hyper toxique. C'est un truc, c'est hyper toxique. Alors là, voilà, on est dans le... Alors, comme la Hague... Alors, comme on dit, le nucléaire, c'est 200 000 salariés. Mais de toute façon, le nucléaire, c'est pas la fin du nucléaire. Hein. Si on arrête le nucléaire, ça sera pas la fin parce qu'il faudra contrôler toutes ces installations. Il faudra du monde. Les centrales nucléaires, tant qu'on n'a pas sorti tous les... Je veux dire, on dit on arrête Golfech, il faut sortir les barres d'uranium. Les piscines, il faut attendre que les piscines, les barres dans les piscines soient refroidies, etc., il faut les sortir, il faut les transporter, et après on videra cette eau qui est complètement pourrie. Il faut, ça c'est pas en claquant des doigts, faut pas se leurrer. On aura encore besoin quand même d'un paquet de gens qui ont des compétences et qui sont motivés et qui sont motivés pour le faire. Mais bon, ça sera pas du jour. Même si on dit il y a un événement gravissime, on arrête tout de suite. Il faudra quand même des gens. Il faudra quand même des gens pour surveiller ça. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est la radioactivité. C'est, je veux dire, une centrale au charbon. Je veux dire le barrage qu'il y avait eu dans les Pyrénées, dans les Alpes-Maritimes. C'est pas mal passé. Oui, mal passé. Hein, je crois. Je suis pas tout à fait ça parce que ça s'est mal passé sinon. Mais lorsque le barrage a pété, hein, bon, il y a eu quelques centaines de morts. Hein, terrible pour eux. Mais après, tu reconstruis les maisons, etc. Tu peux revivre sur place sans problème. Il n'y a pas de radioactivité. Une centrale nucléaire qui pète, on le voit Fukushima à autre. Et bien, tu as une zone absolument no man's land. Il faut pas se leurrer. C'est ça la problématique. Et les faibles doses de radioactivité, c'est, je dirais, délétère. C'est extrêmement dangereux. Faut pas se, hein, c'est, on dit on peut en prendre. Non, on peut pas. On peut pas en prendre rien du tout là-dessus. C'est voilà le problème on est. Mais on est le pays le plus en rapport avec sa population, la superficie le plus nucléarisé du monde. Et puis on fonce au nom de la grandeur de la France. Et puis maintenant la lutte contre
le la grandeur du capital
et la lutte contre le changement climatique. Voilà.
Alors, je voudrais aussi m'arrêter un instant sur le rôle des médias dans tout ça, sur ce qu'on peut entendre. Il y a deux types de médias en France, on va dire ça comme ça. Il va y avoir les médias qu'on va appeler alternatifs, type reporters, des médias où on peut trouver de l'information sur ces sujets, et les grands médias mainstream qui appartiennent à des groupes financiers, type Bolloré, où là,
ou à l'État français.
Ou à l'État français, et on n'aura pas du tout, du coup, le même discours, parce qu'il y a d'un côté, il y a la propagande pro-nucléaire. Et de l'autre côté, il y a, on va dire, des messages qui sont plutôt environnementaux où on va décortiquer les problèmes et donner de la véritable information. Et en plus, on a Jean-Michel Baillet maintenant qui est au milieu de tout ça, qui nous arrive, qui est quand même, rappelons-le patron de la Dépêche.
de la Dépêche, de Midi Libre, de Midi Olympique. Il a un journal de la République des Pyrénées, le Petit Bleu.
Le Petit Bleu, ouais, voilà,
et voilà, il a un certain nombre, il a un certain nombre de journaux qui font, je dirais, bon, ça mange sur la Dépêche a passé la soirée en information. La soirée avec Yves Lenoir à Gourdon, ça a été annoncé à la Dépêche de Gourdon. Bon, c'est bon. Après, ça, ils se sont pas mouillés là-dessus. Il n'y a pas eu trop d'infos. Il y avait quatre lignes.
Oui, voilà, c'est une annonce, quoi.
C'est une annonce. Voilà, il y a eu quatre lignes. Ben oui, on a vu la BD de Jean Covici. Ils ont matraqué. Dernièrement, il a fait une conférence. Il a une interview sur Mediapart. On a entendu que Jean Covici. Quand moi j'ai demandé ce que ça soit équilibré, qu'ils invitent Bernard Laponche, j'ai aucun retour là-dessus. Voilà. Donc on y est en plein. Ben ils ont le pouvoir et ils en profitent. C'est tout. Bon, ce serait bien qu'Antendo ait 3 millions d'auditeurs.
Eh oui, ça serait plus facile.
Ça serait plus facile pour tout le monde.
Ou que France Inter fasse de la vraie information, enfin que le France, pardon, la maison France Info, enfin France Radio et tout ça.
Radio France,
voilà, fasse de la vraie information.
Eh oui, mais bon, c'est de temps en temps. Ce qui m'étonne quand même, c'est l'émission de 14 à 15 heures, La Terre au Carré, qui effectivement égratigne quand même et fait passer des infos. Un répondeur, il y a des gens qui font passer, bon, c'est quand même très sévère vis-à-vis du pouvoir en place, etc. Et donc, ils ont des reportages, c'est Camille Crollier, là, bon, elle a pas la langue dans sa poche, et puis bon, c'est bien ce qu'elle fait. Je me dis, jusqu'à quand?
Jusqu'à quand on va les laisser faire?
Oui, parce qu'un jour, je pense quand il y aura un renouvellement des émissions, là, comme on appelle ça tous les ans, il est fort possible, quand il y a des gens dans le pouvoir, ils en ont ras-le-bol, ils diront, bon, ben, on en mettra d'autres à la place. Bon, ils mettront d'autres personnes qui sont beaucoup plus consensuelles, je veux dire.
En tous les cas, il y a une manière beaucoup plus sûre d'avoir de l'information cette histoire d'envie de futurs réacteurs EPR sur la centrale de Golfech. C'est de venir ce dimanche 28 avril avec vous. Dès 10h, donc, on a dit rendez-vous à Valence d'Agen. Devant l'église de Valence d'Agen. Ensuite, à midi, il y a un rendez-vous devant la centrale de Golfech pour un pique-nique. Au pied de la centrale, c'est super chouette.
Et une prise de parole. Voilà, si on a des choses à dire, si on a de l'info, il y aura une sono, il y aura un micro et on peut venir s'exprimer en toute liberté. Voilà.
Et ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, cette histoire-là, c'est la première fois qu'on en parle ensemble sur cette antenne. Il y aura d'autres fois, bien entendu, c'est un peu comme un premier message d'introduction sur cette annonce, cette annonce, voilà, parmi les 14 EPR2 prévus en France, il y en a deux qui seront faits à 60 km de chez nous environ, enfin dans le Lot, à Golfech.
Alors non, là-dessus, ils ne seront pas faits. Je dirais, il y a une demande, le gouvernement n'a pas officiellement encore répondu. Déjà, il y en a 6 qui sont programmés à Penly. J'ai plus lieu en tête, j'ai un trou de mémoire là. Qui sont déjà programmés, ils n'en ont pas parlé, bon, 14, il y en a 6 de sûrs. Golfech, c'est une demande de politiques locaux et de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn-et-Garonne, point. Mais après, ça, on n'est pas encore sûr. Par contre, nous, on a lancé une pétition sur cyberacteurs à laquelle vous pouvez participer si vous êtes en dénonçant la demande des deux EPR supplémentaires. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que le 28 avril à 15h à Saint-Pierre-de-Clairac, il y a la conférence de Stéphane Kerkhoff d'agir pour l'environnement.
Et également aussi, notons, c'est un peu plus loin, mais les jours avant, il y aura Stéphane Lhomme qui fera un petit détour par Bordeaux aussi. Ça va être l'occasion d'en discuter avec lui. Il va y avoir, en fait, tout au long de ce week-end-là, les week-ends des 26, 27 et 28 avril, il va y avoir des mobilisations contre le nucléaire un peu partout, j'espère. En tout cas, à Bordeaux et à Valence d'Agen, voilà, il y en aura.
Autour le 26 avril, étant la catastrophe de Tchernobyl, la 38e année. Il y a 38 ans, ça pétait à Tchernobyl. Et donc, effectivement, c'est la commémoration de la catastrophe. Et on se bat pour pas qu'il y en ait en France, déjà. Voilà.
C'est bien.
Merci William.
Merci à toi Philippe.
Merci Antenne Doc.
À bientôt.
Salut.
Vous étiez à l'écoute de Philippe Cruzel de la coordination Stop Golfech qui vous donne rendez-vous ce dimanche 28 avril à Valence-d'Agen à 10h puis à midi à Golfech. Pour avoir plus d'informations sur les sujets évoqués ici, retrouver les pétitions citées et tout savoir sur ce week-end de commémoration, direction la toile internet à l'adresse stopgolfech.org.